Chers auditeurs, chères auditrices de Mère et de Résistance, 88.4, Marseille, bonsoir à tous. Aujourd'hui, on entame notre deuxième partie de l'émission consacrée au sectarisme, le tout lié à ce qui est arrivé le 15 octobre dernier avec l'assassinat de Monsieur Paty, enseignant dans un collège de la République française, qui s'est fait couper la tête parce qu'il avait voulu parler la liberté de d'expression en montrant à ses élèves des caricatures issues du journal Charlie Hebdo, des caricatures de Mahomet. Alors, il y a un nouveau journal qui est paru depuis la semaine dernière. Je ne sais pas si vous vous souvenez. On avait fait le tour de tous les journaux qui sont parus lundi dernier. Il y avait un petit peu toute la presse française. Et avec, parce que le dimanche d'avant, dimanche, pas ce dimanche, mais celui d'avant, le dimanche 17 octobre, il y a eu un rassemblement dans toute la France de gens qui sont venus rendre hommage devant les bâtiments officiel de la République dans les communes, que ce soit les grandes places, la statue de la République, place de la République à Paris, qui a été le plus gros rassemblement, mais aussi dans toutes les villes de France, préfectures et mairies, on est venu rendre hommage à Monsieur Paty, qui finalement, tout comme ont pu l'être d'autres personnes, est un symbole des victimes républicaines, puisque Monsieur Paty n'avait pas cherché à mal, il a juste cherché à montrer qu'il fallait que la liberté d'expression c'était important et qu'il fallait relativiser les choses lorsqu'il y avait une moquerie quelque part dans la plus pure tradition française, bien sûr, puisque en France, on est des habitués de la caricature ou du dessin humoristique. Et donc, et ça s'est fini par une tragédie. Et donc, c'est une victime innocente de la République, comme aurait pu l'être Dreyfus, par exemple. Je ne vais pas faire de Monsieur Paty un nouveau Dreyfus. Et quelque part, on peut faire des analogies entre les deux personnages. Dreyfus a été accusé à tort d'un méfait qu'il n'avait pas commis, une trahison contre l'État français, qui n'était pas de son fait, mais du fait d'autres personnes. Il a été accusé complètement à tort et on l'a réhabilité après, mais il a vécu un vrai cauchemar puisqu'il est allé en prison, sa famille a vécu un vrai cauchemar. Il était militaire gradé, il a été dégradé, il a perdu son grade. Donc ses bons et loyaux services pour la République n'ont pas été suffisamment anéantis par un procès inique. Et Monsieur Paty, c'est un peu pareil, sauf que lui, bon, bien sûr, c'est pas l'État français qui l'a dégradé, ni qu'il a en lui coupant la tête, ni qu'il a emprisonné ou qu'il lui a privé la vie. C'est quelqu'un d'autre, quelqu'un d'extérieur, quelqu'un qui a écouté ce qui se disait sur les réseaux sociaux et qui n'a pas su, qui a été victime puisqu'il a perdu la vie d'une façon ignoble. Et donc là aussi, dans les deux cas, il y a un phénomène de victime. La République, que lorsqu'elle fonctionne mal, suscite des victimes. S'il y a eu un monsieur Dreyfus, c'est parce que la République française n'a pas su faire s'arrêter à temps ceux qui lui ont fait du mal. Ceux qui, tous les jours, essayent de trahir leur pays, alors qu'en étant récompensés pour ça, c'est-à-dire parce qu'ils sont haut placés, parce qu'ils ont des relationnels abondants et riches, et on les laisse faire ce qu'ils veulent. Bien, Monsieur Dreyfus a été accusé à la place de quelqu'un d'autre, parce que comme il était juif, on s'est dit c'est pas grave, il vaut mieux que ce soit lui qui prenne pour le vrai traître. Et là, c'est pareil, même chose, Monsieur Paty a payé pour plein d'autres. Il a payé pour le défaut de surveillance dont on souffre actuellement, notamment sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que je pense, avec le recul, on se rend bien compte qu'il y a des défaillances de part et d'autre, on devrait pouvoir créer un délit supplémentaire avec des précédents juridiques sur ce qui sur les menaces de mort qui paraissent sur Internet. Il devrait y avoir une cyberpolice qui surveille ce qui se dit sur Internet. Après tout, quand on fait des menaces de mort contre quelqu'un dans la rue, on peut être condamné à payer une lourde amende ou à aller en prison. Pourquoi est-ce que sur les réseaux sociaux, on ne fait pas la même chose ? Donc pourquoi est-ce qu'on peut impunément faire des menaces de mort et du montage de tête de groupe contre une personne ? À cause de ses croyances et de ses pratiques. Donc, je pense que ça nous remet beaucoup en question là-dessus. Ça nous remet aussi en question par rapport à un certain laxisme qu'on a volontairement alimenté sur la nécessité de faire en sorte que les valeurs républicaines soient respectées chez nous. Quand on parle de la laïcité, on ne remet pas en question du tout la tolérance, c'est la liberté de religion ou de pratique religieuse pour tous. Bien au contraire, mais quelqu'un qui vit en France et qui a élu domicile et qui y travaille s'est engagé quelque part puisqu'il s'est engagé à être citoyen français. Et être citoyen français, c'est se plier aux règles de la République et accepter que dans la sphère publique, on ne parle pas de religion et que la religion n'entache pas les relations entre les gens. Entre les individus. La religion est une question de pure croyance. De pure croyance qui sont personnelles. Donc, et ça, il faudrait, pour le rappeler, c'est vraiment pas facile. On a fustigé le ministre de l'Intérieur parce qu'il parlait de communautarisme dans les rayons de supermarché. Je me dis souvent, les interdits religieux proviennent souvent d'une volonté de maintenir les gens en bonne santé, d'aider les gens à être en bonne santé. Et de protéger leur corps. Et donc, je pense que dans ce cadre-là, on peut placer les nourritures cachères ou halal sur le même plan que celles que le bio ou que les produits à haute valeur ajoutée environnementale ou encore les à haute valeur environnementale, pardon, les produits AOC, les produits AOP, etc. Faire de la viande cachère ou halal, c'est avoir pratiqué dans les règles de l'art un sacrifice de l'animal de façon à ce que ce dernier produise une viande qui soit saine. De la même façon qu'une nourriture bio ou qu'un poulet élevé au grain ou une vache qui fait du fromage et qui s'est nourrie d'une bonne herbe dans les prairies naturelles produisent de la viande ou des produits laitiers bien meilleurs, des produits d'origine animale de bien meilleure qualité. De la même façon qu'une viande cachère ou halal a permis de faire en sorte que l'animal ne produise pas des produits chimiques qui vont abîmer sa viande. Donc c'est pour ça que je pense que tous ces produits-là sont des produits à forte traçabilité. On résoudrait très bien le problème en montrant en plus qu'une religion, une pratique religieuse, ça peut être sain pour le corps et la santé. Si dans les supermarchés, on faisait l'effort de mettre tous ces produits-là ensemble, bien sûr en distinguant le cachère de l'halal ou de l'AOC ou du bio, on explique combien en faisant un emplacement pour chaque, mais le tout dans un endroit commun qu'on appellerait le lieu des produits à traçabilité haute. Et comme cela, le fait religieux n'entrerait pas chez nous, en nous, dans la vie de tous les jours. Et ça, c'est très important. Alors, moi, j'ai rencontré une association qui est chalonnaise, qui s'appelle Religion en Dialogue, au sein de laquelle des personnes issues de différentes confessions religieuses, catholiques, juifs, musulmans et même bouddhistes, ils sont à peu près 20, discutent régulièrement et créent des événements pour montrer que les grandes religions peuvent faire des choses ensemble et qu'on peut s'entendre les uns et les autres. Donc il y avait une assemblée générale. Il rappelle alors une assemblée générale où a été rappelée la nécessité de poursuivre le dialogue entre les cultes, la devise de l'association selon laquelle il reste indispensable de mieux se connaître pour mieux se comprendre et mieux s'entendre, n'a pas été oubliée. Les musulmans sont aujourd'hui très blessés, notait un des membres de l'association, vice-président, ainsi que l'aumônier, au sein des scouts musulmans de France, qui est membre de l'association. Je rappelle que les scouts musulmans de France sont un groupe qui fait beaucoup pour la tolérance religieuse et pour montrer que l'islam peut être quelque chose de bien, quelque chose qui est ouvert à la citoyenneté et même à la laïcité. Voilà, la personne de l'association Religion en dialogue, rajoutait « Nous aurons besoin d'échanger à ce sujet. Il devient très difficile pour les musulmans de libérer la parole à ce sujet et de partager ses blessures. Nombreux ont été membres de l'association choqués par les faits commis vendredi dernier. En égorgeant, il y a la notion de sacrifice. Nous sommes choqués par un tel agissement. Nous avons également une réflexion autour du blasphème. Il n'existe que pour le croyant et on ne blasphème pas le Dieu d'un autre. » Et surtout, Mahomet est un prophète, pas un dieu. Donc, des choses qui ont été discutées. Voilà. Donc, beaucoup d'échanges. On aura sur nos ondes bientôt, je pense, pas lundi prochain. On ne va pas pouvoir le faire lundi prochain parce qu'il y a une autre... Je veux présenter les instants vidéo qui vont bientôt avoir lieu à Marseille avec une interview de Marc Mercier. Mais je pense qu'on le fera la semaine d'après. On aura un entretien avec les gens de cette association et on pourra discuter pour essayer de voir quelles solutions on peut faire émerger pour que ça se passe mieux chez nous. Dans l'association, la conférence des évêques de France, rappelait en parlant de M. Paty, face à l'horreur et à l'impensable, lorsque le seuil de l'école est franchi par la violence à travers l'assassinat d'un enseignant, comment ne pas se révolter, dénoncer, accuser et rejeter l'autre venu d'ailleurs et qui, au nom de sa religion, l'islam, ôte la vie d'un être humain, d'un époux, d'un père, d'un enseignant. Une profonde tristesse pour cette victime et sa famille et la compassion pour leur immense douleur. Et les évêques de France rajoutent « En fraternité, nous pensons à tous ses collègues, ses élèves, à l'ensemble des enseignants de ce pays qui aiment leur métier et s'y donnent à fond pour construire avec les jeunes qui leur ont confié l'avenir de notre nation. Nous pensons aussi aux musulmans de ce pays, heurtés profondément par ce qui vient de se passer et qui, par des voix multiples, ont exprimé leur douleur et la condamnation sans condition de cet acte revendiqué au nom de leur religion qu'ils estiment ici dévoyée. Nous connaissons le travail de beaucoup de musulmans pour éduquer les consciences, relire les textes fondateurs à la lumière de notre temps, même si un long chemin reste à parcourir encore pour contrer les forces obscurantistes. Nous pensons à notre pays, la France, aux valeurs qui la font dans sa devise, liberté, égalité, fraternité, sans cesse à proclamer, mais surtout à mettre en œuvre au quotidien, sachant que l'une ne va pas sans l'autre et que l'une ne prévaut jamais sur l'autre. Là, je voudrais juste rappeler que je suis en train de lire un texte religieux, issu des évêques de France, donc qui est d'obédience catholique, mais je ne vois pas beaucoup de différence avec ce que nous disent nos politiques sur la préservation de la République et de ses valeurs. Puisqu'ils parlent de fraternité, ils nous disent que notre société a un urgent besoin aujourd'hui d'une fraternité qui a quelque chose de positif à dire à la liberté et à l'égalité. En ces jours où la liberté d'expression est rappelée avec force, nous nous souvenons qu'elle est un droit fondamental. Elle n'est pas un absolu. La loi elle-même rappelle que certains propos sont interdits. L'incitation à la haine raciale, ethnique ou religieuse, l'apologie de crimes de guerre, les propos discriminatoires à raison d'orientation sexuelle ou d'un handicap, l'incitation à l'usage de produits stupéfiants, le négationnisme. Au nom de la fraternité humaine, il est nécessaire d'approfondir la manière d'exercer la liberté d'expression dans le respect de l'altérité. Nous vivons dans un monde blessé, une société meurtrie, sans cesse menacée par la violence, l'intolérance et le rejet de l'autre. Les difficultés qui sont énormes sont une opportunité pour grandir et non une excuse à une tristesse inerte qui favorise la soumission. Mais ne le faisons pas seul, individuellement. Nous sommes invités à nous mobiliser et à nous retrouver dans un nous qui soit plus fort que la somme de petites individualités. La liberté est à ce prix. Elle convoque un partenariat d'égo qui va jusqu'à la fraternité. Toutes ces dernières années, nous nous sommes habitués à ne voir que ce qui va mal, ce qui dérange notre confort, contrarie nos intérêts propres. N'est-il pas temps de regarder ce que nous offre notre monde, notre pays, la France, notre société pluriculturelle ? N'est-il pas temps de nous réjouir de ce que nous recevons les uns des autres, du fait même de notre diversité que facilite la laïcité ? Donc, vous voyez, il parle quand même de laïcité. Il parle de laïcité, donc il faut savoir ménager, séparer le bon grain de l'ivraie dans les religions et parmi les gens qui en travaillent, y travaillent, en vivent, ou qui s'y aliment. Il y a aussi de très bonnes idées, c'est ça aussi, vivre ensemble. Il ne faut pas faire du sectarisme et de l'anti-religieux à tout prix, parce que ça aussi, c'est une forme d'obscurantisme. Il faut savoir faire parler chacun. Et par exemple, ici, vous voyez, on parle beaucoup de laïcité. Et on nous dit, la laïcité est mise à mal par des voix contraires. Il y a celles qui la dénoncent, ne voyant en elle qu'un athéisme niant la place des religions. Il y a celles qui la défendent, comme le dernier rempart, face à des religions qui ne seraient qu'obscurantisme. Il y a celles qui l'instrumentalisent et en font une religion qui prévaut sur tout le reste. Mais la laïcité n'est-elle pas voulue depuis l'origine dans la loi de 1905 comme le creuset qui permet aux différences religieuses, philosophiques et d'opinion de s'exprimer librement ? Il est urgent de rappeler que la laïcité n'est pas une opinion parmi d'autres, mais la liberté d'en avoir une. Elle n'est pas une conviction, mais le principe qui les autorise toutes, sous réserve du respect de l'ordre public. C'est l'État qui est laïque et non la société. La dimension spirituelle y a toute sa place. L'assassinat de Samuel Paty vient interpeller notre être ensemble, notre hospitalité, les fondements de notre société, la question de l'éducation, notre rapport à la religion, l'accueil des migrants. Il nous lance autant de défis pour répondre à ces questions, non plus par des discours de bonnes intentions, mais par des actes concrets qui appellent une conversion profonde de nos manières d'être, de vivre ensemble, de faire société, d'habiter notre maison commune. Et là, ils ont bien dit « maison commune ». Donc c'est très important, ce texte a été écrit par le père Vincent Feroldi, la sœur Colette Hamza, Monseigneur Claude Rowe et le père Pierre Bellache. Donc ils font partie de la conférence des évêques de France et ils font partie du service national pour les relations avec les musulmans. Il faut savoir que qu'aujourd'hui, il y a une place très importante faite au dialogue interreligieux, que ce dialogue interreligieux, après l'impératif du respect du droit de chacun, je pense au texte de 1789, mais aussi aux principes fondamentaux des lois de la République, est un préalable nécessaire à ce que les gens puissent s'entendre. Dans un pays où on ne respecte pas les droits de chacun, où il y a des gens qui ont des droits que d'autres n'ont pas, ou inversement, on ne peut pas faire du dialogue interreligieux et on ne peut pas s'attendre à ce que soient respectées les valeurs de liberté, d'égalité ou de fraternité. Et donc, si on veut faire du dialogue interreligieux et appeler à la paix sociale et à la paix civile, il faut d'abord respecter le droit. Et puis, le deuxième impératif important, c'est bien entendu le dialogue interreligieux, le dialogue des gens les uns envers les autres. Même pour ceux qui n'ont pas de croyances religieuses. Ça, c'est très important. Donc, j'ai lu ce texte, je voudrais simplement rebondir sur autre chose. On a un texte issu de personnalités religieuses, au nom justement de leur appartenance à cette religion qui n'est pas une secte, mais qui est une religion reconnue et officielle, un appel à la laïcité. On nous parle de valeurs républicaines. Donc ça montre bien que les valeurs républicaines sont valables pour tous, et non pas uniquement pour des individus qui seraient épars et disséminés dans la société et qui ne se reconnaîtraient dans aucune des communautés religieuses présentes sur le territoire français. Bien au contraire, le principe de laïcité et cette réflexion sur les valeurs de la République concernent tout le monde, religion ou pas, appartenance à des associations avec annotation religieuse ou pas. Ça, c'est très important. C'est le citoyen est au-dessus des religions. Tout comme le président de la République est au-dessus des partis dans la Constitution de 1958. Ça, c'est le général de Gaulle qui l'a dit. Marianne a sorti un très beau nouveau hebdomadaire dans la semaine du 21 au 29 octobre 2020, avec une magnifique tête de Marianne coupée, on voit le sang. Donc ça nous rappelle bien entendu des choses qu'on n'a pas oubliées. Par exemple, la Révolution française et le fait que beaucoup de gens y aient été guillotinés. Voilà qu'on recommence en France à couper les têtes. Ça nous questionne. Ça nous fait penser à la République. Ça, c'est très important. Et donc, Marianne a publié avec cette photo-là. Et le titre, dans le dossier spécialement consacré à l'événement, où Samuel Paty a trouvé la mort, elle titre « Conflans ou le miroir de nos lâchetés ». Elle nous dit « Pourquoi nos lâchetés ?» Bah, tout simplement parce que effectivement, à Conflans-Sainte-Honorine, il s'est passé quelque chose. C'est un fait d'actualité très grave qui, quand on le regarde, nous renvoie notre lâcheté personnelle de tous les jours. Samuel Paty a été décapité, dit Marianne, le 16 octobre. C'était le 16 octobre, pour avoir fait son devoir d'enseignant. Au-delà des auteurs directs de l'attentat, son assassinat aura été rendu possible par tous ses renoncements, ses dysfonctionnements et ses couardises qui défont silencieusement notre société. Et ils nous répondent, ils nous disent, les journalistes de Marianne, « Et si on ouvrait les yeux ?» Donc, les journalistes, c'est Paul Congé, Anthony Cortès, Étienne Gérard, Vladimir de Gmeline, Bruno Henriette et Laurent Valdiguier. Alors, je n'ai pas cité tous les journalistes des autres journaux que j'ai cités lundi dernier. Et là, je les cite. J'ai pensé les citer. Qu'est-ce qu'ils nous disent, ces journalistes-là ? Ils nous disent, je vais le dire. Ils décrivent d'abord ce qui se passe après. Le mouvement est continu. Devant le collège du Bois d'Aulne, du matin au soir, la foule défile. Des fleurs, des pleurs, un cahier d'hommage, des policiers aux aguets, des ambulances, des bénévoles de la protection civile. Ce samedi 17 octobre au matin, une bande de barbus qu'on n'a jamais vus dans le coin observait la scène de loin, pendant que des policiers civils les photographiaient. À l'intérieur de l'établissement, une cellule d'écoute psychologique. Conflans à Sainte-Honorine dans les Yvelines, ses petits pavillons tranquilles, ses terrains de sport, ses allées ensoleillées. Dans l'une d'elles, vendredi 16 octobre, un professeur d'histoire-géographie a été décapité parce qu'il avait fait son devoir. Les élèves qui ont eu Samuel Paty comme professeur ont du mal à parler. Je ne me suis jamais autant intéressée à l'histoire qu'avec lui, se souvient une élève de troisième. Elle s'exprime lentement, lutte contre l'émotion, avec de temps en temps un regard pour sa mère. En 2019, lorsqu'elle était en quatrième, Samuel Paty avait été son professeur principal et elle l'avait retrouvé dans un enthousiasme, que chaque cours confirmait. Je me rappelle chaque sujet, chaque période, il savait stimuler notre intérêt. L'année dernière, c'était les Lumières et ce modèle sur la laïcité et sur Charlie Hebdo. Ça n'avait posé aucun problème. Il nous avait bien expliqué avant que cela toucherait à la religion et que ceux qui éventuellement seraient choqués avaient la possibilité de détourner le regard en sortir ou de sortir. Il n'a pas du tout désigné les musulmans. Ce n'était pas mon genre. Il ne stigmatisait personne. La rumeur et le fanatisme, comme un cocktail explosif, ont tué Samuel Paty. Celui qui l'a achevé s'appelle Abdullah Anzorov, un réfugié tchétchène, tout juste sorti de l'adolescence, dont l'inouïe sauvagerie nous laisse sidérés. Âgé de 18 ans, il a été abattu par la police. Ceux qui ont précipité son lâchage se nomment Brahim C., parent d'élèves menteurs, et Abdel Hakim Sefrioui, un prédicateur fiché pour radicalisation à caractère terroriste. Ils ont été placés en garde à vue parmi 11 personnes. L'objectif ? L'enquête se concentre sur la capillarité entre le tueur et le parent d'élève. Comment l'information a circulé de l'un à l'autre ? Avec au milieu, ce Frioui relève une source gouvernementale. Leur culpabilité pénale devrait être déterminée. Leur responsabilité morale ne fait aucun doute. Et puis, il y a des responsabilités plus indirectes. Ces dysfonctionnements qu'on est habitué à taire. La couardise des rectorats, l'impuissance de la justice, des politiques, des fonctionnaires. Pas de vagues, qu'il disait. Toutes ces lâchetés, toutes ces erreurs ont mené à l'horreur. Là, on voit bien que... pardon pour le bug, le petit blanc. C'est parce que j'étais un petit peu émue, parce que c'est vrai que c'est vraiment grave ce qui s'est passé. Je pense qu'il faut qu'on continue à se battre, qu'il faut qu'on rebondisse. Le journal Marianne a raison. Il dit exactement la même chose que ce que moi j'ai dit au début de l'émission, quand j'ai dit que Samuel Paty avait été victime de la République française, de son laxisme, de son laisser-aller sur certaines choses, connotation sécuritaire, parce que s'il s'est fait assassiner comme ça, c'est qu'on n'a pas pris le taureau par les cornes plus tôt. Et on aurait dû faire attention, notamment à ce qui se disait sur les réseaux sociaux. Donc c'est grave. On va passer, comme à notre habitude, un sketch. Je ne vous dis pas qui c'est. C'est une surprise, vous allez voir, vous allez être très surpris quand vous m'entendrez vous expliquer de qui il s'agit tout à l'heure. Je vous dis à dans 5 minutes.
Alors sans plus attendre, je vous demande d'accueillir Stéphane Bach. Apparemment, il y a une erreur. Le plateau de Midi les Zouzous, c'est pas ici. Hein. C'est à...
ah non, mais en fait, moi, je suis humoriste, en fait, tu vois. Toi, t'essayes d'être animatrice, moi, je suis humoriste.
Ouais. Bon, autant pour moi. Alors, vous l'avez compris, c'est le plus jeune humoriste de France. Je vous demande de l'encourager très fort, Stéphane Bach.
Bonsoir. Alors bonsoir à tous, moi je me présente, je m'appelle Stéphane Bach, j'ai 14 ans, et moi vu que je suis super jeune, j'ai un avantage sur les autres humoristes, c'est que j'ai pas de concurrence directe, parce que personne n'est fait des blagues d'un mec de 14 ans, hein, à part Arthur. Mais j'ai aussi des inconvénients à 14 ans, ce soir j'ai pas d'histoire cochonne à vous raconter comme tous les comiques, vu que moi j'ai jamais fait l'amour. Bon, aussi une fois avec ma cousine, mais bon, vous savez, tradition de chez nous, hein, en plus c'est mon père qui m'a forcé. Je vois qu'il y a pas mal de gens qui sont choqués, mais je vous préviens, je m'en fiche, parce que mon père a signé l'autorisation, donc s'il se dit de la merde, c'est lui qui va en prison, voilà, aucun problème. Donc je vous disais que j'ai 14 ans, ça veut dire que j'ai pas le droit de boire d'alcool, ni de sortir seul le soir, et le droit de prendre aucune décision sur la vie de ma famille. En fait, je suis une femme musulmane. Vous applaudissez ça, bande de racistes. J'habite une petite ville de 93 qui s'appelle le Blanc-Ménil. C'est marrant comme nom Blanc-Ménil parce que le seul truc blanc là-bas, c'est les passages piétons et les dents des renois. Je suis dans un collège des ZEP. Si, si. La zone d'éducation pour les primates. Et franchement... franchement, c'est dur d'être noir et collégien à Blanc-Ménil. Il y a deux jours, je me suis fait arrêter par des flics. J'aurais dit « Oh non !» Pas un contrôle, j'ai pas révisé. On dit, t'inquiète, nous non plus, on n'a pas révisé, c'est pour ça qu'on est flic. Je sais pas faire l'accent marseillais, hein. C'est un accent mi-marseillais, mi-congolais. Et dans mon collège de ZEP, il y a beaucoup de racisme. Je me souviens qu'un jour, notre CPE est venu dans notre cours, il nous a dit, bon les blancs, vous vous mettez de ce côté-là, on va voir ce que vous voulez faire plus tard. et les noirs, vous mettez de ce côté-là, on va voir ce que vous pouvez faire plus tard. Et je pense qu'aussi, on parle pas assez des Renois dans les livres d'histoire, parce que je vous jure, la seule fois où je vois un noir dans mon livre d'histoire, il est en slip et il se fait fouetter. Vous savez qui c'est le plus gros des racistes pour moi ? C'était mon père. Je vous jure, il m'exploitait quand j'étais petit, il me faisait poser pour l'UNICEF. Ouais, l'enfant avec des mouches dans la bouche, c'était moi. Bon, il y avait un petit avantage, c'est que vous pouvez faire les photos à la maison, vu que c'est le même bazar qu'au Darfour. Et mon père, quand il a vu que moi je me suis mis à faire de la scène, il s'est mis à écrire des vannes. Un jour, il m'a appelé, il m'a dit, viens là, écoute celle-là. Bonjour, est-ce que je pourrais parler à Paul, s'il vous plaît ? Je dis, Paul qui ? Paul Emploi ! Je lui ai dit, franchement, papa, je préférais quand tu me battais, hein, c'est pas possible ça. Et si je vous parle de mon père, c'est parce qu'en ce moment, il est en pleine crise de la quarantaine. Donc il s'est mis sur les réseaux sociaux, Facebook, copains d'avant, tout ça. Sauf qu'il attend que ses copains d'avant, ils aient Internet. Je vais arrêter de le charrier, hein, parce que c'est lui qui m'a poussé à faire de la scène. C'était pour se faire de l'argent sur mon dos. C'était pour se faire de l'argent sur mon dos. Qu'est-ce que je vous racontais si c'était pour se faire de l'argent sur mon dos? Je pense qu'il a eu raison, quand même, je pense qu'il a eu raison, parce qu'aujourd'hui, je suis sur la scène du Grand Rex. Les plus grands ont marché sur cette scène. Jamel Debbouze a marché sur cette scène. Gad Elmaleh a marché sur cette scène. Grand Corps Malade a boité sur cette scène. S'il y en a qui veulent me parrainer pour l'UNICEF, je vous attendrai à la sortie pour prendre des photos. Merci à vous, je m'appelle Stéphane Bach.
Voilà, c'était le sketch... C'était un sketch que beaucoup de nos auditeurs ne connaissent pas, avec le plus jeune humoriste de France. Vous vous rendez compte de la chance qu'on a ? Le plus jeune humoriste de France, Stéphane Bach, 14 ans, qui nous présentait le sketch « Rire ensemble contre le racisme ». Donc voilà, aujourd'hui il est question de parler de laïcité, de liberté de croyance, de liberté d'expression et de religion, mais aussi avant tout de lutte contre le racisme. Et ça, il faut lutter contre le racisme qui est présent en chacun de nous et qui nous fait chercher des responsables. Nous sommes tous responsables collectivement et au nom de la République française contre de ce qui est arrivé. Alors, le dossier de Marianne est assez complet. Du journal Marianne est assez complet. Ça parle des agents de sécurité, la manière dont la sécurité avait été faite. Le fait qu'on a un peu baissé la garde juste avant sur les islamistes pour travailler sur les évangélistes. D'après ce que serait un agent du renseignement territorial qui en aurait parlé, il faut lutter contre les dérives communautaristes, toutes et pas seulement pour les musulmans. Et dernièrement, on aurait davantage travaillé sur les évangélistes. Un procureur de la République aurait confié que des ordres avaient été donnés pour qu'on ferme les yeux sur le port de la Barka afin de ne pas reproduire les émeutes, indique un ancien élu. La construction d'une mosquée dans une ville aurait été en suspens depuis 2010. Donc voilà, ça ce sont des mesures de nature coercitive, mais on ne voit pas de mesures qui permettraient de lutter contre la criminalité, alors que c'est surtout de ça dont on a besoin. Et notamment, je le rappelle, il y avait sur les réseaux sociaux, sur Internet, matière à dire et à redire. Parce que, tout simplement parce que sur les réseaux sociaux, il y avait des menaces de mort. Et donc normalement, celles-ci doivent être punies par la loi. Les menaces de mort sont punies par la loi, normalement, toujours. Peut-être que ça a échappé à certaines personnes, pourtant il y a bien des gens qui ont dû le dire. Des enseignants qui disent que... on a tendance à assimiler à l'extrême droite les combats contre les combats de Charlie. C'est-à-dire que les gens qui protestent contre l'assassinat, les assassinats des journalistes de Charlie Hebdo seraient racistes eux-mêmes. Alors il y a des amalgames qui sont faits. Alors il y a une professeure d'histoire-géographie qui s'appelle Agnès qui dit tous les combats de Charlie sont assimilés à l'extrême droite, dont un en particulier, la laïcité. Donc finalement on en finirait par être raciste quand on dit qu'on est laïque. Ça c'est quand même très grave. La faute à certains discours médiatiques qui circulent sur les réseaux sociaux par fragments. La laïcité, comme l'ensemble des principes républicains, devrait être exposée et définie clairement par l'ensemble du personnel enseignant, nous rappelle cette enseignante. Et effectivement, c'est vrai qu'il y a du relâchement sur les valeurs de laïcité. Le débat avait été relancé en 2014, quand on avait beaucoup parlé de la laïcité et quand on avait imposé... en 2015, pardon, à l'époque où il y avait eu les attentats contre Charlie, justement, ou contre l'hypercachère, on avait relancé le débat sur la laïcité. Il y avait la charte de la laïcité qui avait été imposée un peu de partout. Et en général, les personnels enseignants ou dans les lieux publics, on a assez bien respecté ce principe-là. Mais... Je ne pense pas que ce soit le cas. Je pense qu'après, il y a eu un relâchement. Il y a eu un relâchement après qui date des années 2016-2017, qui fait qu'on a oublié d'en reparler, de le remettre, de rénover tout ça dans le débat national. C'est ce qui expliquerait. Qu'on ait aujourd'hui tous ces problèmes. Pourtant, il y a eu tous ces attentats-là qui sont pas si loin que ça, finalement. Hein. C'était il y a que 5 ans. Eh bien, malheureusement, le débat sur la laïcité à l'école ou au lycée ou au collège, qui revient en force aujourd'hui, avait été quelque peu occulté précédemment. Alors que, en fait, normalement, un thème comme celui-ci nécessite une remise en question à tous les niveaux. Il se doit notamment de toujours revenir sur le débat, dans le débat public. On ne doit pas l'occulter de cette façon-là. C'est pour ça que je vais passer le clip « La laïcité à l'école », ça veut dire quoi ? Je vais le repasser maintenant, on va l'écouter.
La laïcité à l'école, qu'est-ce que ça signifie ? On entend souvent parler de la laïcité de l'État ou de l'école. La laïcité, c'est quoi ? La laïcité, c'est le principe qui garantit la liberté de croire ou ne pas croire. En France, elle s'applique selon 3 grands principes. L'égalité. Tous les habitants, quelle que soit leur religion ou conviction, sont égaux devant la loi. La liberté. Tous les habitants ont le droit d'exprimer leurs croyances ou convictions et de pratiquer la religion de leur choix, d'en changer ou de ne pas en avoir, mais toujours dans le respect de la liberté des autres. La neutralité de l'État. L'État ne peut jamais imposer à qui que ce soit une religion ou de ne pas croire. Toute personne qui travaille pour l'État ou une collectivité publique doit être neutre et ne rien imposer en matière religieuse. La laïcité en France, ça date de quand ? En 1882, l'école publique est laïque. Avec la loi du 9 décembre 1905, c'est la République qui devient laïque. L'État et les Églises sont officiellement séparés. Plus tard, le principe de laïcité est jugé tellement important qu'en 1946, la laïcité est proclamée par le premier article de la Constitution. La laïcité à l'école, ça veut dire quoi ? La laïcité à l'école, ça veut dire... que mon enseignement doit me faire partager la valeur de la laïcité et des autres grands principes de la République. Que je ne subis jamais de violence ou d'injustice en raison de mes croyances ou convictions. Que j'ai le droit de parler de ma religion ou de religion en général, mais toujours dans le respect des convictions et de la liberté des autres. Que je ne subis aucune pression de la part d'un adulte ou de mes camarades, du fait de leurs croyances ou de leur volonté de les transmettre. Que je dois respecter les règles de l'école publique et ne pas montrer de manière trop visible à quelle religion j'appartiens si j'en ai une. que j'ai droit aux mêmes apprentissages que tous les autres pour pouvoir découvrir la diversité des visions du monde. Que j'apprends à l'école la différence entre la connaissance vérifiée et la croyance qui relève des convictions personnelles. La laïcité, c'est une chance pour moi d'être respectée pour ce que je suis, sans considération de ma religion ou de mes convictions.
Voilà, c'était La laïcité à l'école, c'est le clip officiel. En fait, on peut le trouver facilement sur un site officiel du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Vous tapez dans Google ou education.gouv.fr, vous tapez dans Google laïcité et vous l'avez. Voilà. Donc la charte de la laïcité, elle était quelque peu occultée, alors qu'on avait demandé à ce que des affiches soient partout et très visibles pour tous, mais on n'a pas fait ce qu'il fallait pour introduire peut-être suffisamment le débat sur la laïcité dans tous les programmes officiels, et à peut-être aussi avant tout pour que des débats et puis peut-être la venue de personnes extérieures au lycée ou au collège alimentent les réflexions des élèves sur la laïcité. Alors, je rappelle ce que disent les profs, puisque c'est eux qui sont à l'honneur, puisque c'est M. Paty était enseignant. La laïcité, comme l'ensemble des principes républicains, devrait être exposée et définie clairement par l'ensemble du personnel enseignant. C'est ce que nous dit Marianne. Effectivement, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris vraiment ce que c'était que la laïcité. La définition de la laïcité par elle-même est encore très très mal perçue, très mal comprise. Elle est encore mal définie, elle est encore très peu claire. Qu'est-ce que c'est la laïcité? Moi, je donne ma définition personnelle, hein. Pour moi, la laïcité, c'est le fait que la religion, de reconnaître que la religion est une affaire personnelle, une affaire qui n'intéresse que les personnes prises individuellement, elle ne doit pas donc pas entacher le collectif, que lorsqu'on est dans une communauté religieuse et que la communauté religieuse se réunit, elle le fait de manière discrète, dans des lieux clos et spécifiques, qu'elle ne le fait pas dans les espaces publics, qu'on a encore mal défini la notion d'espace public, que les espaces publics, ce sont les espaces publics officiels et républicains, comme l'école, le lycée ou le collège, la mairie ou la préfecture, ou les réunions d'élus, etc. Mais aussi les lieux publics privés. C'est-à-dire qui relève du privé, c'est-à-dire les supermarchés, les épiceries, la rue. Moi, je suis toujours très choquée de voir des témoins de Jéhovah distribuer des tracts dans la rue. Pour moi, c'est une atteinte à la laïcité. S'ils veulent pouvoir discuter, il y a d'autres moyens de pouvoir discuter avec les gens que distribuer des tracts à l'entrée des magasins. Je suis toujours choquée aujourd'hui... de voir certaines personnes, on n'a plus de prédicateurs religieux qui se mettent debout sur une table au plein milieu de la rue, bien entendu, pour prophétiser, quoique de temps en temps ça revient, ça faut bien le reconnaître. Il y a quelques fous, mais ils sont vite arrêtés. Mais ça, la laïcité, c'est aussi ça. C'est pour ça que dans la laïcité, il faut aussi le fait de se cacher son visage ou son identité. Ça, c'est une atteinte à la laïcité. C'est pour ça que le port du voile doit être vu avec parcimonie. Par contre, le fait de porter un foulard, je ne vois pas en quoi ça pourrait porter atteinte aux droits des uns et des autres. Là-dessus, c'est ce qui est important, surtout, c'est de ne pas cacher le visage des individus. La laïcité, c'est de combattre le prosélytisme religieux un peu de partout. La laïcité, c'est aussi éviter le communautarisme et faire en sorte que dans les écoles... Eh bien, il y a les enfants qui sont scolarisés soient issus de toutes les ethnies, de tous les milieux sociaux, qu'il y ait vraiment une mixité sociale. Je rappelle que la mixité sociale, qui va avec le principe de laïcité, est un principe qui est brandi au nez des maires et des présidents de communautés de communes ou de métropoles, où on leur dit il faut faire de la mixité sociale, c'est dans la loi Solidarité et Renouvellement Urbain de 2000. On oblige à la mixité. C'est le cas pour le logement, mais aussi pour l'éducation. Donc, et les enseignants nous rappellent, nous devrions déclarer une mobilisation générale avec du temps et des moyens dédiés. Mais aujourd'hui, sur cette question, nous sommes désarmés. En cause, le manque de préparation à ces sujets, au moment de leur formation à l'Institut National Supérieur du Professorat et de l'Éducation, INSPE, c'est ce qui remplace les IUFM. L'enseignant, qui est cité dans Marianne, reprend « On nous dit seulement que ce sont des questions socialement vives et à aborder avec précaution. » Donc on voit ici, on l'a vu, je commençais mon émission par dire que la République n'avait pas fait son travail pour se protéger elle-même sur le plan sécuritaire, mais aussi sur le plan de la préparation de ceux qui sont les premiers à être confrontés à cette idée de laïcité, les enseignants. Puisqu'on ne parle pas, on n'aborde pas la laïcité en profondeur. Moi, j'attendais plutôt qu'on nous donne concrètement des clés pour répondre aux questions d'élèves sur des sujets inflammables avec des publics potentiellement éruptifs. C'est la même chose pour gérer les cas difficiles en cours. Il n'y a pas vraiment de préparation. Il n'y en avait pas à l'UFM, il n'y en a pas non plus, visiblement, à l'Institut National Supérieur du Professoriat de l'Éducation. C'est à croire que nous sommes en poste davantage pour préserver les élèves du discours républicain plutôt que pour le leur exposer. Le rapport rédigé par l'Inspection générale de l'Éducation nationale et publié le mardi 13 octobre faisait le point sur l'application du principe de laïcité dans les établissements scolaires publics. Et il pointait, avant même de savoir ce qui allait se passer, cet aspect-là. Le principe de laïcité, la connaissance de ses racines historiques et juridiques et de sa signification, ainsi que ses règles d'application et sa portée restaient très lacunaires chez beaucoup d'enseignants. Pour un certain, c'est quatre inspecteurs d'académie qui ont rédigé ce document et ils disent, pour un certain nombre d'enseignants, la conception de la laïcité et de son sens est davantage affaire de positionnement personnel, idéologique et politique que de droit. Beaucoup de collègues tentent de nous dissuader, nous dit un enseignant, d'aborder ces questions. Quelquefois par frilosité, d'autres fois par idéologie. C'est le cas notamment chez certains syndicalistes auprès desquels nous sommes censés trouver un soutien. Quand vous rapportez à votre syndicat que votre classe était au bord de l'émeute, entre insultes à la République et propos homophobes, et qu'on vous répond que vous n'auriez pas dû offenser leurs croyances, que voulez-vous faire ? Nous ne sommes pas tous des héros, alors on abandonne. Tous n'abandonnent pas, nous rajoute Marianne. D'autres, comme Samuel Paty, tentent de jouer leur rôle malgré le manque de soutien et les pressions. Ils organisent des conférences, des débats, des expositions autour des valeurs républicaines et de la modeste place que doit occuper la religion dans l'espace public. La mort de l'un des nôtres nous prouve bien que nous sommes toujours des hussards, note Ahmed, professeur d'histoire dans le Val d'Oise. Sous la Troisième République, les instituteurs avaient pour mission de protéger l'école de la superstition et de l'église. Nous en sommes toujours là aujourd'hui, rétorque une professeure de français. Et elle continue, ce rôle on ne le tient plus, cela fait beaucoup trop d'années que l'on se soumet à toutes les croyances. Voilà. Donc, visiblement, il y a un problème. La République n'a pas suffisamment travaillé pour se guérir. Et donc, il va falloir peut-être se remettre en question. Il va falloir se remettre en question face à l'horreur qui est survenue le 16 octobre dernier. La présidente du Conseil supérieur des programmes nous dit « Il faut défendre l'école contre ses ennemis. » Il y a beaucoup d'ennemis de l'école aujourd'hui, des ennemis extérieurs. Ceux qui, dans la société française, participent sans en prendre conscience à la fragilisation de l'école. Ceux qui doutent de l'idéal républicain et lui préfèrent le libre épanouissement des passions démocratiques. Ceux qui opposent la laïcité, réduite à la portion congrue. la neutralité de l'État à la laïcité, tout court, et obscurcissent le sens. Ceux qui prônent l'ouverture de l'école sur la société et qui l'empêchent d'être ce sanctuaire qu'elle doit être pourtant pour remplir ses missions. Donc, c'est très grave. Certains ont cité la lettre de Jules Ferry aux instituteurs qui date de 1883, leur prescrivant de ne rien dire qui pourrait choquer un père de famille et d'être prudent en matière de religion. Mais on ne peut pas, on ne devrait pas devoir comparer, comme le dit Marianne, ce qui se passait en 1883 à la situation actuelle, où on a quand même beaucoup évolué. Voilà. Donc, le dossier de Marianne est très long. Il y a beaucoup de choses qui sont dites. On nous dit « vous n'aurez pas nos têtes ». Un historien nous dit « les tueries n'ont pas entamé la domination de la bien-pensance ». Il nous parle de la stupidité aussi d'un certain gauchisme culturel qui veut tellement montrer qu'il n'est pas raciste qu'il finit par ouvrir la porte à des groupes sectaires et fondamentalistes, tout ça pour montrer qu'il n'est pas raciste et à ouvrir la voie. Donc ça, c'est sûr, moi je suis entièrement d'accord avec lui. Normalement, il y a eu de grosses erreurs qui ont été faites. Elles datent des années 2000 où on a commencé à faire les polémiques sur le port du voile. Et là, on a été beaucoup trop ouvert en voulant trop montrer qu'on n'était pas raciste. Ne pas être raciste, c'est aussi savoir choisir les bonnes personnes. C'est parfois une insulte faite à la communauté des musulmans que de choisir comme interlocuteur et que de leur imposer comme représentant au sein de la République et des instances républicaines des gens issus du fondamentalisme qui professent des idées sectaires. Et pourtant, ces gens-là, on le leur a imposé. Et beaucoup de musulmans ne se reconnaissent pas dans ces gens-là qu'on voit discuter à la télé, à la télévision ou à la radio, ou voire même à l'Assemblée nationale, en disant qu'ils représentent les musulmans. J'allais dire les musulmans, mais ça pourrait aussi bien être le judaïsme que le catholicisme ou le pentecôtisme. Donc, il faut être très vigilant là-dessus. Il faut faire très attention. On n'a pas, dans notre République, fait attention. On n'a pas suffisamment été vigilant. On n'a pas été assez intelligent. On n'a pas réagi de manière suffisamment intelligente. Passer à côté du problème, je veux dire, pour le mettre de côté, ce problème-là. Il fallait s'y prendre beaucoup plus tôt, dès les années 2000, dès les débuts des polémiques sur le port du voile. Il fallait savoir être inflexible et imposer nos valeurs républicaines et de laïcité face à ces groupes qui sont des groupes qui se sont créés artificiellement, qui souvent viennent de pays extérieurs, où même dans ces pays-là, ils se sont créés artificiellement dans les années 90. Donc, il faut faire revenir les vrais représentants de l'islam. Ça, c'est très important. Donc, la République a beaucoup de choses à faire. C'est dommage parce qu'on pourrait en discuter encore pendant très longtemps. Et le journal Marianne est sujet, là, cet exemplaire du journal Marianne là, de la semaine dernière qui court jusqu'au 29 novembre. Quand vous entendrez mon émission, chers auditeurs, vous ne pourrez plus l'acheter, mais vous pourrez le commander ou aller voir à la bibliothèque, il y est, et faire des photocopies. Il y a de très bons articles avec un très bon panel des personnalités qu'il faut écouter pour pouvoir remonter le niveau de la République. Pour peu que la République existe encore dans tout ça. On peut aussi se poser la question, est-ce que la République existe encore ou est-ce qu'elle a déjà vraiment existé pleinement? Ça, c'est la question que je pose. Je souhaite faire une émission dessus un jour. Je vais être obligée de laisser l'antenne. Chers auditeurs, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. On parlera des instants vidéo qui vont bientôt arriver, survenir dans la ville de Marseille. Je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir.